Un élève renverse soudainement son bureau juste parce que le programme de la journée a légèrement changé. La plupart des adultes y voient de la pure rébellion, genre un caprice.
Ouais, on a très vite fait de juger.
Complètement. Mais les documents qu'on analyse aujourd'hui, donc les fameuses lignes directrices type for kids, elles révèlent une réalité beaucoup plus troublante. Cet enfant ne se rebelle pas du tout, en fait. Il lutte pour sa survie. Notre mission pour ce décryptage, c'est de comprendre comment transformer la vie de ces enfants traumatisés en modifiant radicalement notre approche d'adulte. Bon, décortiquons tout ça.
Alors, ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'explication biologique derrière ces réactions. Le cerveau d'un enfant qui a subi un traumatisme est littéralement coincé en mode combat ou fuite.
Ah, le fameux système de survie.
C'est ça. L'hypervigilance, l'agressivité ou le repli sur soi, c'est pas des choix conscients. Un ton de voix un peu sec, une porte qui claque, et paf, leur système nerveux réagit comme s'ils étaient face à un prédateur.
C'est fou d'imaginer ça. En fait, c'est un peu comme l'alarme incendie d'une maison dont les capteurs seraient devenus tellement sensibles qu'un simple courant d'air la déclencherait.
C'est une super analogie.
Et quand cette alarme hurle, punir l'enfant, ça revient à taper sur le boîtier avec un gros marteau. Ça coupe pas la sirène, ça abîme juste le système.
Pire encore, taper sur le boîtier, ça confirme au cerveau qu'il y a effectivement un danger immédiat. C'est exactement pour ça que la punition classique échoue face au traumatisme.
Parce que ça rajoute du stress au stress.
Voilà. Une sanction imprévisible ou des cris, ça reproduit la dynamique de l'abus original, une perte totale de contrôle face à une figure d'autorité menaçante. Donc la priorité, c'est plus du tout d'imposer la discipline, mais bien de restaurer le sentiment de sécurité.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le chemin le plus rapide pour qu'un cerveau se sente en sécurité, c'est de reprendre le contrôle. Le document explique que le traumatisme engendre un sentiment d'impuissance profond. Et l'antidote direct, c'est de redonner de l'autonomie.
Exactement. Et ça passe par des actes très concrets au quotidien. Les principes du texte sont clairs, il faut réaliser l'impact, reconnaître les symptômes, répondre de manière appropriée et surtout, résister à la retraumatisation.
Donc éviter les cris ou les punitions surprises, quoi.
C'est ça. Et ça implique de reconnaître l'importance de la sécurité relationnelle. Par exemple, au lieu de dicter un truc du genre assieds-toi tout de suite, une approche informée par le traumatisme propose plutôt.
De donner le choix.
Ouais. Tu leur dis, tu préfères t'asseoir près de la fenêtre ou de la porte? On ne cède pas sur l'objectif final, mais on offre un choix qui court-circuite complètement la panique.
Ah, je suis vraiment frappée par cette idée. Pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, au lieu d'essayer de casser l'alarme incendie, on leur donne le code pour qu'ils puissent la désactiver eux-mêmes.
C'est le principe central. Un adulte prévisible qui offre des choix et fait preuve d'empathie permet au système nerveux de l'enfant de s'apaiser.
Mais attends, on touche quand même aux limites pratiques là. Le document indique que ce réseau de soutien s'étend bien au-delà de la classe. Ça implique les familles, les travailleurs sociaux et même les entraîneurs sportifs.
Oui, tout l'écosystème de l'enfant.
Mais honnêtement, imaginer une telle coordination, ça me paraît presque utopique. Un prof peut très bien appliquer cette méthode, mais si le jeune va à son entraînement de basket après l'école et se fait hurler dessus pour une erreur, tout s'effondre, non? Ces adultes ont à peine le temps de communiquer entre eux en temps normal.
C'est un obstacle majeur, c'est sûr. Mais si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est une nécessité absolue. Sans une formation commune de tous ces acteurs, l'enfant reçoit des signaux contradictoires.
Et du coup, son alarme reste toujours active.
Tout à fait. Si ce filet de sécurité craque, le rapport alerte sur des conséquences cliniques vraiment sévères. On ne parle pas juste d'une baisse de notes en classe. On parle d'épuisement émotionnel chronique, de troubles de la mémoire, de décrochage scolaire, voire d'une trajectoire directe vers le système pénal.
Parce que ces jeunes finissent par chercher un semblant de contrôle et de sécurité dans des environnements ou des comportements destructeurs. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond?
Qu'il faut changer de paradigme.
Voilà. On comprend que la véritable guérison ne s'obtient pas par la force. Elle exige des environnements hautement prévisibles où les enfants retrouvent leur pouvoir d'agir.
Ce qui implique que les adultes acceptent d'abandonner une part de leurs besoins de contrôle absolu pour privilégier la connexion humaine.
Ce qui amène une réflexion assez dérangeante pour terminer. Si la guérison exige de l'autonomie, des choix et de la souplesse, on peut légitimement se demander si nos systèmes éducatifs traditionnels, qui sont si souvent construits sur l'obéissance stricte, le silence et la standardisation, ne sont pas fondamentalement incompatibles avec la réhabilitation de ces enfants. Une réflexion à poursuivre.